Atelier du regard, une émission en partenariat avec le FRAC PACA. L'atelier du regard propose à un artiste, un intellectuel, un amateur d'art de choisir une œuvre dans les réserves du FRAC PACA. L'œuvre choisie, sortie de sa réserve, est exposée au regard. Des paroles, des commentaires, des interrogations émergent. L'atelier du regard. Jérôme Gab. Walid Rad, l'Atlas Group. Jérôme Gam porte son regard sur une vidéo de Walid Raad tirée de l'Atlas Group. Walid Raad est un artiste né en 1967 au Liban. Il fonde en 1997 l'Atlas Group, une fondation fictive, imaginaire, dédiée à la recherche et à la compilation de documents audiovisuels, littéraires et autres, qui ont pour but d'éclairer l'histoire contemporaine du Liban, et particulièrement la guerre civile du Liban, qui s'est déroulée de la moitié des années 70 jusqu'au début des années 90. Avec ces documents, Walid Raad reproduit les dispositifs scientifiques et politiques qui font de ces documents des archives. Ainsi, ces documents, versés à la Fondation par des historiens fictifs ou des témoins directs de la guerre, sont datés, annotés, classés, légendés, entretenant par là un rapport à la vérité et au réel. Mes vidéos, dit-il, ne sont pas des témoignages de ce qui s'est passé, mais de ce qu'on peut imaginer dire ou tenir pour acquis à propos de la guerre, de ce qui nous semble raisonnable de dire ou de penser à son sujet. Parmi ses nombreux documents, Jérôme Gam a choisi de visionner « We can make rain, but no one came to ask », une vidéo qui date de 2006 et qui est au catalogue du Fonds Régional d'Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jérôme Gam a publié de nombreux textes de facture littéraire et critique, dont dernièrement « Ce que l'art contemporain fait à la littérature » ou encore « La fille du Far West ». Jérôme Gam est aussi un lecteur de ses propres textes, et ses lectures sont considérées comme appartenant au champ de la performance sonore. Son atelier d'écriture s'élabore en proximité avec la vidéo, le cinéma, au contact des opérations de montage. Il réalise également des vidéos-poèmes. Lier le lire et le voir est au cœur de l'atelier d'écriture de Jérôme Gam. Jean-Michel Espitalier dit de son écriture « C'est comme un film de cinéma. Jérôme Gam fait des captations, zoom des trucs, cadrage, plan séquence, petit travelling arrière, ça repart en avant. Il monte des espèces de machins, récupère des dialogues, se balade avec ses verres miroirs au bord des chemins. Chef op de tout ce qu'il a ramassé. Il en fait toute une histoire, il en a plein la bouche. Puis, il dérush. En live, écrit dans l'air. Et ça, c'est l'instant de poésie. Atelier du regard. Jérôme Gam, Walid Raad.
Chaque regard est mouvement et que chaque mouvement est composition, que chaque composition est construction. Et que dès lors qu'on regarde, on est susceptible, on est capable de reconstruire. qu'il met en jeu dans cette pièce me semble être une très belle façon de vivre le présent, c'est-à-dire de faire antidote à ce qui, dans le présent, peut nous essouffler, peut nous faire perdre souffle, littéralement. C'est-à-dire cette capacité à créer de l'interstice, à écarter le réel depuis le réel. Oui, de pouvoir ménager des places, des positions, respirables, pas respirables, j'entends émotionnellement et en termes de pensée, à l'intérieur d'un présent dont on pourrait dire que, plus souvent qu'à son tour, il nous asphyxie de toute une série de visibles, de toute une série de dissibles, de lisibles, comme si c'était là un cours de gymnastique intellectuelle, un cours de gymnastique au sens presque d'une démonstration, comme on fait dans un avion, de sortie d'urgence, lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a une situation périlleuse, à partir des signes, à partir des récits, et à partir de leur économie.
Écarter le réel, donc, est-ce que c'est la possibilité du frayage de la fiction ?
Avant peut-être de faire usage d'une catégorie comme l'imaginaire qui peut être un chouïa surplombante ou surdéterminante, comme j'allais dire, comme signifiant, l'imaginaire, c'est quelque chose qui permet de voir comment, peut-être vous avez vu ce film de Jean Eustache qui s'appelle La maman et la putain, où le personnage joué par Léo dit à un moment que le faux c'est plus vrai que le vrai. Donc peut-être sortir du vocabulaire qui peut nous amener vers une dichotomie entre vrai et faux et imaginaire, etc. Faire usage de ce que dit ce personnage de Eustache pour voir que si le faux c'est plus vrai que le vrai, une façon d'appréhender, une façon de se rendre sensible à ce qui a lieu, qui pourrait être une définition du réel, dans sa violence, dans son abrupte, serait de commencer à l'indéterminer. Et c'est ça ce que je veux dire par écarter. Le réel, ça ne veut pas dire s'en échapper, ça ne veut pas dire prétendre qu'il y aurait une catégorie toute faite qui nous permettrait de... Mais au contraire, de s'en échapper à force de rentrer en lui, de l'interstitier, d'en faire un interstice, et de dire en fait le réel a partie liée avec le récit. Avec le récit pas tant exclusivement littéraire ou verbal, avec toutes formes de récit, une installation, un cadrage, un montage, ce sont des opérations de récit. Et comme si cette capacité à produire du récit à partir et à l'intérieur, à même le réel, était une façon non pas de le nier ou de s'en échapper au sens d'un escapisme quelconque, ou d'une critique frontale, mais qui consisterait à commencer à le refaire, le continuer en le faisant morpher, le continuer en le faisant différer à lui-même.
Je suis sans doute allé trop vite, finalement, dans la présentation de Atlas Group, du travail de Walid Raad. Quand je dis c'est une fausse fondation et que ce sont de faux documents, je suis allé trop vite.
Pas forcément, parce qu'on peut faire retour et on peut se servir de ce que vous avez dit pour avoir un usage qui nous permette d'appréhender cette œuvre et une fois de plus de s'en servir. Les œuvres, elles sont faites, et je parle ici dans un endroit qui les conserve, et les conserve au sens fort à dessein, dès lors qu'on s'en sert. Et s'en servir, il y a mille façons de faire cela. Mais donc, pour s'en servir, et revenir sur cette idée du faux, en quoi est-ce que on peut essayer d'inventer des façons de ne pas sombrer ou ployer sous les manières dont un certain réel serait défini, instrumenté, reproduit, représenté. Et une façon, à mon avis, très active de commencer ce programme-là consiste à sortir de la dichotomie entre le réel et l'imaginaire pour dire non, le réel est imaginaire et l'imaginaire est réel. Et on va essayer de voir comment, à travers tout le travail qui est fait ici, d'interstices, de défeuillages, de palimpsestes, de relation à la fois dans l'image, dans le montage, avec le son, avec le texte, avec évidemment le catalogue et le récit qui est produit dans le catalogue. Lorsqu'on dit dans le catalogue que cette œuvre est attribuée à quelqu'un, on est en train véritablement de parler de la manière dont un sens doit se rapporter à une situation d'énonciation. Ça vaut et pour ce qu'on appelle l'imaginaire et pour ce qu'on appelle le réel, comme si cette façon de se faire se confondre ou s'intercaler ces deux catégories, du faux et du vrai, de l'imaginaire et du réel, nous donner des armes pour vivre le réel tout court. Lequel réel tout court, puisqu'on parle de cadrage, ne l'est pas cadré, ne l'est pas au sens propre, et en même temps l'est à chaque fois qu'on cadre, à travers une phrase, à travers un discours, à travers une affiche électorale, à travers un spot de publicité, à travers une œuvre d'art.
C'est-à-dire qu'en fait, le réel, on a toujours besoin, pour l'approcher, de le raconter. En fait, il est toujours raconté, le réel.
Précisément, ou en tout cas, il est toujours construit. La nature n'existe pas. La nature sociale, la nature politique, la nature historique, elle se construit. Et c'est comme si ce type d'œuvre nous réveillait, avec évidemment bien d'autres, depuis que l'art existe, by the way, nous réveillait de cette espèce de demi-sommeil dans lequel on se trouve, qui serait celui des dichotomies, qui serait celui des essences, qui serait celui des ici le réel, ici ce qui ne l'est pas. Comme si le réel était poussé sur les arbres, sur la branche des arbres. Et ce n'est pas le cas. Comme si ce qui est était à repenser à travers un lien entre ce qui est, ce qui fut, ce qui devient possiblement. Qu'il fallait tisser ce lien-là. Comment ce qui est ce qui devient. Et ce qui permet donc de voir comment une situation comme celle que vous évoquez, de la guerre du Liban, c'est-à-dire de la violence politique, c'est-à-dire de la violence pure, doit être à la fois résistée par tous les moyens et en même temps pensée afin que ce qui constitue la modalité de cette violence, c'est-à-dire de dire « tu es cela, donc tu meurs », puisse être détruite, c'est-à-dire pour qu'on sorte du verbe « être », pour qu'on sorte du prédicat, pour qu'on sorte de l'essence. Je ne suis pas un spécialiste de ce qui se passe depuis si longtemps au Liban. Je ne pourrais pas en parler de manière précise. Mais je crois avoir compris qu'il y a une violence du verbe « être ». Parmi toutes les violences qui s'exercent là-bas. Et je crois qu'une œuvre comme ça est en train de nous donner des armes, des capacités à déconstruire la cage rhétorique, la cage discursive, la cage iconographique, la cage de spectacle mental, de cinématographe mental, sur lesquelles reposent beaucoup de ces violences verbales. quelque chose qui est du travail de l'archive, avec ces images en noir et blanc, etc., dont on ne peut pas non plus les rapporter à une mention de catalogue très précise, puisqu'il y a d'entrée de jeu cette relation au faux. Donc d'une part ces images, et puis d'une autre part quelque chose qu'on pourrait considérer comme du live feed, d'une caméra qui est en train d'enregistrer un réel, avec par ailleurs des effets de surimpression, cette fois par rapport à la physionomie de la ville, c'est-à-dire des immeubles détruits. On ne sait pas si c'est leur passé qui est en couleur fluo représentée par-dessus, ou leur futur possible. Il y a cette insistance de l'œuvre à nous maintenir dans cet entre-deux, à nous maintenir à l'endroit de tous les possibles. Non pas pour ne pas se remémorer les violences de la guerre, mais pour dire qu'on peut, à partir de cette situation-là, aussi tragique fut-elle, bifurquer de l'intérieur. Qu'est-ce que ce serait qu'insister sur la représentation phrastique d'une phrase, d'une phrase d'image? Et là, il y a un cartouche. Il y a un cartouche avec, qu'on peut lire d'une certaine manière temporellement, mais qu'on peut lire aussi en termes de profondeur de champ, avec tout ce qu'on peut comprendre sur la profondeur de champ. Si on se réfère à une certaine théorie du cinéma, la profondeur de champ, c'est ce qui permet de casser la chronologie spatiale ou celle du montage séquentiel, en disant il y a à l'avant-plan quelque chose, à l'arrière-plan quelque chose, et ces deux plans et tous les plans au milieu sont simultanés, existent au même moment. Et donc on peut traverser cette épaisseur du temps et montrer en quoi on peut, plutôt que d'évoluer dans une cohérence chronologique, dans un devenir propre à l'image. Et donc ce travail je ne sais pas comment l'appeler, sur ce cadre cartouche, sur ce cadre qui travaille, en tout cas dans mon imaginaire, la notion de phrase, c'est-à-dire la notion de construction syntaxique avec un début, un milieu, une fin, et qui l'indétermine, qui vient la provoquer, qui vient s'en servir différemment, me semble très très parlant aussi. C'est une des forces de cette œuvre, c'est qu'elle permet insidieusement, c'est-à-dire avec puissance, qu'un autre type de rapport au réel, qu'un autre type de perception, y compris de la perception de l'histoire et du politique au sens le plus concret, se mette en place. On pourra en parler aussi par rapport à sa bande sonore. On n'entend pas directement, en tout cas au début de l'œuvre, le bruit de la guerre. On n'entend pas le bruit des résultats de la guerre. On entend le bruit, j'allais dire tout court, en personne, d'une rue. Comme à chaque fois, inscrire de l'écart dans l'attente iconographique qu'on pourrait avoir en sachant que Walid Raad vient de cet endroit du monde, cette partie du monde, et va parler de cette guerre-là, et va parler de ces choses-là, et instaurer un autre régime sensoriel qui permette à chaque fois de casser la surdétermination, la prédétermination qui peut exister.
Ces bifurcations dont vous parlez, c'est pas tant des bifurcations qui finalement nous racontent, alors ce ne sont pas tant des bifurcations qui nous racontent quelque chose, mais plutôt des bifurcations qui nous permettent à nous de nous raconter nous-mêmes des histoires.
Absolument, c'est exactement ça. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète, c'est-à-dire des bifurcations qui nous permettent d'activer une puissance. Et donc c'est le récit ou la narration, non pas tant dans les scénarios qu'elle produit, que comme force, comme capacité, comme encapacitation. Faire une phrase ou un récit, c'est ce que j'ai cherché à apprendre chez les vidéastes comme celui-ci et au cinéma, c'est apprendre à raconter quelque chose tout en étant à l'intérieur même de ce quelque chose-là. C'est-à-dire ne pas choisir, pas parce qu'on n'en est pas capable, mais parce qu'on insiste à ne pas choisir entre, pour le dire vite, l'intransitivité du signe et sa transitivité, son rapport à un extérieur et à un objet, avec tout ce que ça peut rendre possible, et l'insistance sur la prégnance de l'expérience du signe en question. Lee regarde, regarde-les. Ce que fait l'art pictural depuis qu'il existe, ce qui est beaucoup plus dur à faire en littérature, pour toutes sortes de raisons.
Lire, c'est le continu, et le regard, c'est le séquençage.
On pourrait lire comme ça, de manière un peu comme ça, oui. Oui, et cette tension-là, elle est très importante. Parce que c'est un rapport entre la perception, entre l'épreuve physique, et aussi la construction de sens et la distance, et le rapport à d'autres référentiels. Et tout ça, c'est, je crois, quelque chose qui peut, lorsque c'est réussi, à mon avis, comme dans cette œuvre, ça peut donner de la puissance à l'œuvre et à la perception qu'on s'en fait. C'est-à-dire, ce que ça veut dire quoi, donner de la puissance ? Permettre à la personne qui fait cette expérience d'ensuite avoir appris cela et pouvoir vivre avec ses yeux, avec ses oreilles, le réel de plein pied, différemment. Qu'est-ce que ça veut dire de voir, ensuite, lorsqu'on sort du frac, ce qu'on va voir, ce qu'on va entendre, où que ce soit, dans la rue, à la télé, avec la méthode que cette œuvre nous aura apprise. Une grande œuvre, pour moi, est une œuvre qui nous enseigne une méthode directement applicable, via les sens, et via ce que ces sens font à notre pensée. C'est quelque chose qui nous donne une boîte à outils, directe.
C'est une méthode pour voir autrement.
Exact. Exact.
La méthode permet d'actualiser la transformation du sens. Quoi.
Exact. Et surtout de se l'adjoindre à sa boîte à outils intime, personnelle, existentielle, celle dont elle est capable d'assurer la production, l'usage et la conservation ou la modification. On est tous un frac, d'une certaine façon, dans cette tête. C'est-à-dire qu'on s'en sert par rapport à un usage. À un usage qui s'appelle vivre. Et si une œuvre est capable de faire ça, chapeau. Un frac mental, c'est pas du tout par je ne sais quel. C'est au sens fort, c'est quelque chose, c'est une boîte à outils. C'est un usage. C'est un usage concret, direct. C'est quelque chose qui permet de faire d'autres choses. J'enseigne les études cinématographiques et je viens de travailler sur la bataille d'Alger, dont on pourrait dire que c'est une fiction pure, ce qui est vrai, dont ce n'est pas un dispositif comme celui-ci, mais qui joue avec beaucoup de choses, qui joue au sens fort, avec beaucoup de choses, qui manipulent le blanc et le noir, qui manipulent la post-synchronisation, qui manipulent toutes sortes d'objets qui rappellent ce qui est en jeu ici, qui permet de voir comment c'est d'entrée de jeu, de plein pied, le réel qui est adressé par la fiction. Et par la manière dont on va la cadrer, dont on va la monter. Ce qui est très fort avec le travail de cet auteur, c'est que il arrive à parler de quelque chose qui est très saisissante et très touchante et très inquiétante, tout en maintenant cette matière à échelle d'un travail formel qui permette véritablement d'approfondir cette matière et en plus d'approfondir la méthode artistique elle-même. Il est équidistant de ces deux pôles. Et c'est rare. On peut souvent être aplati par l'importance de son motif, de son thème, de son sujet. Évidemment, l'autre extrême est très souvent vérifié aussi. On rentre dans des considérations formelles, formalistes, que sais-je. Ici, il y a une capacité à tenir la tension qui consiste à écarter ces deux pôles pour travailler.
Il y a des trous dans la mémoire, des manquements. Et par rapport à ce que vous disiez, Jérôme, sur le fait que ça écarte le réel, comme si aussi le contexte, c'est-à-dire la guerre au Liban, était propre à pouvoir faire cette expérience d'écarter le réel, puisqu'il y a justement ces trous de mémoire propres à une histoire qui n'a pas été faite ou à des archives qui n'existent pas.
Tout à fait. Ce que vous dites est très intéressant parce que sans doute y a-t-il cette coïncidence-là, et pourtant ce qui me frappe, c'est que ce type d'œuvre de Rade ne cherche pas à combler le trou. Il cherche à, ou plutôt il se trouve travailler avec, il se trouve travailler à proximité. Ce qu'il semble important de relever, c'est qu'il ne cherche pas à le combler au sens ou un travail d'historien, ou un travail d'association civile, ou un travail de toutes sortes de choses, même si dans la construction du dispositif autorial qu'il met en place, on pourrait aussi considérer que c'est un rapport, ne serait-ce que nominal, avec les manières dont des institutions vont aller dire « il faut chercher les disparus, il faut chercher les choses ». On se demande même s'il ne cherche pas à l'agrandir, c'est-à-dire tout en le métamorphosant par cet entre-deux entre la fiction et le réel. Comment est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce que ça veut dire de voir, de regarder ? Cadrer, monter, séquencer. Pour moi, les grandes œuvres plastiques sont des choses qui nous apprennent à regarder. Et donc qui nous donne un regard. Et en faisant cela, elle nous incapacite. Elle nous empower, je ne sais pas comment on dit ça en français, elle nous donne de la force.
Atelier du regard.
Jérôme Gam, Walid Raad.
Une émission en partenariat avec le FRAC PACA.
L'atelier du regard.